Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Aux auditeurs qui nous écoutent depuis la radio de Syllab, mais bonjour également au public qui se trouve dans la bibliothèque universitaire de Rennes 2, du côté de la salle actualité au rez-de-chaussée. Après cette rencontre pure café, qui a été dédiée à Éco-écrire, un livre passionnant, vous étiez là tout à l'heure, mais si vous ne l'étiez pas, le podcast sera disponible sur le site du festival Les Transversales. Eh bien, on vous propose un plateau radiophonique pour cette émission littéraire qui est « J'irai cracher sur vos ondes ». Une émission tout à fait spéciale puisque je ne commence pas en vous disant bonsoir, mais bonjour tout simplement puisque nous sommes le mercredi en début d'après-midi. On va vous proposer des mises en son de textes mettant en honneur la forêt, car telle est la thématique de cette 15e édition du festival Transversal. Et entre deux lectures, on aura des interventions des étudiants et des membres pédagogiques qui œuvrent à l'organisation de ce temps de réjouissance littéraire sous une approche transdisciplinaire. On peut arrêter là avec notre fabuleux générique et on dit bonjour déjà à notre première intervenante de la journée, Gaëlle Debeau.
Bonjour.
Donc vous êtes enseignante, chercheuse, vous intervenez notamment sur le master de littérature comparée, mais vous avez pas mal de casquettes sur ce temps de festival. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce temps des transversales ?
Oui, alors le festival transversal, c'est un festival, alors on dit toujours c'est un festival littéraire et artistique, c'est-à-dire qu'en fait c'est quand même d'abord un festival littéraire parce qu'il est porté par le département des lettres de l'université Rennes 2 et principalement, mais pas uniquement, des étudiantes et des étudiants en littérature. Et en fait l'enjeu c'est, mais tu l'as un peu dit avant, hein, c'est vraiment d'adopter une approche transdisciplinaire, transgénérique et donc de partir de la littérature pour aller vers les autres formes d'art. Et c'est un festival, donc là on en est à la 15e édition, qui revient chaque année depuis plusieurs années au mois de novembre. Et chaque année on change de thème. Et donc cette année on explore effectivement la forêt à travers des formats variés, à la fois scientifiques, des spectacles, des ateliers et plein d'autres choses.
Une exploration qui a commencé dès mardi, donc la veille, au moment où on enregistre ce temps d'échange. Vous aviez eu une rencontre avec Guillaume Lambert et Patrick Scheider. Comment ça s'est passé ?
Ah bah ça s'est super bien passé. Donc moi, voilà, c'est un thème que j'adore, la forêt. Et depuis hier matin, je suis ravie. La rencontre avec Guillaume Lambert était vraiment très, très intéressante. Elle se passait dans le cadre d'un séminaire de master de Pierre Cos, qui est un collègue en art du spectacle, en études théâtrales de l'université Rennes 2. Et voilà, Guillaume Lambert est un metteur en scène, un dramaturge, un écrivain qui pratique le théâtre paysage et il est venu nous parler de plusieurs projets qui sont les siens et c'était vraiment tout à fait passionnant. On a aussi lu des textes d'anthropologie aussi. Enfin, il y avait vraiment, c'était très riche. Et puis la rencontre avec Patrick Scheider le midi dans le cadre des mardouis, donc les temps de la bibliothèque de musique, ça a été super. Patrick Scheider nous a joué un petit peu c'est un pianiste. Parmi toutes les casquettes qu'il a, c'est un pianiste et il nous a joué aussi un morceau de piano à la fin. Et puis il a parlé de son projet de l'écologie culturelle et c'était assez enthousiasmant.
Du théâtre paysage, de la musique forestière, on a également eu un peu de cinéma avec du coup l'éloge de la forêt, si je ne me trompe pas.
Alors en fait, ce n'était pas exactement du cinéma, mais c'est difficile de dire quel était le genre du spectacle hier soir. C'est un spectacle créé par Patrick Scheider et avec Thomas Braille notamment, qui est un militant écologiste que vous connaissez peut-être, qui a beaucoup fait parler de lui, notamment ces derniers temps, par rapport à la lutte contre le projet d'autoroute A69 dans le sud-ouest de la France, qui grimpe dans les arbres aussi. Et en fait, c'était un spectacle un peu multifacette, avec à la fois des éléments visuels, effectivement des images projetées, de la musique, du slam, du rap, de la danse et des discours, des formes de performance théâtrale. Donc c'était vraiment un spectacle complet visant à venir sensibiliser aux questions écologiques et environnementales par le prisme des émotions et des sensations.
Et en fait, si je parle de cinéma, c'est juste parce que je me suis fourvoyée dans mes notes. Ça sera ce soir cinéma,
tout à fait,
au Ciné Tambour avec l'appel de la forêt.
Ouais.
Quelle version ? Parce que c'est un film, pour le coup, que j'ai regardé pour préparer ces différents temps d'échange sur la forêt. Et j'ai eu l'embarras du choix, puisque ça a été moult fois adapté. Hein.
Oui, alors en fait, c'est pas l'appel de la forêt, c'est vraiment le choix du titre de la soirée donnée par l'association Ciné Tambour. Mais en fait, on va pas parler de Jack London et on va pas voir d'adaptation de l'appel de la forêt en tant que tel ce soir à Ciné Tambour. On va voir deux films qui se situent tous les deux en Asie. Donc on explore des forêts, mais qui sont des forêts un peu autres.
On décentre.
Voilà, on décentre exactement. Avec un film qui s'appelle La harpe de Birmanie de Kon Ichikawa, qui est un film japonais de 1956. Et ensuite, un film qui s'intitule Tropical Malady d'Apichatpong Weerasethakul, qui est un film franco-thaïlandais qui date de 2003. Et alors, la petite particularité ce soir, ce dont les collègues de Ciné Tambour sont très contents, c'est que les deux films sont projetés en 35 mm. Donc, c'est pas une projection numérique, c'est vraiment le film en 35 mm et c'est assez rare, donc ça vaut le coup.
Et qui est en charge du coup de la projection? Est-ce que les étudiants participent également?
Alors, pour Ciné Tambour, ça fait partie des collectifs ou des structures avec lesquelles on collabore dans le cadre du Festival Transversal. Donc, comme les auditeurs auditrices le savent sans doute, Ciné Tambour, c'est une association étudiante qui implique aussi des enseignants et enseignantes à l'université Rennes 2, et qui font une programmation de ciné-club toutes les semaines du semestre, enfin toutes les semaines des deux semestres de l'année universitaire. Et en fait, chaque année, on travaille pour l'édition du festival avec le groupe d'étudiantes et d'étudiants de Ciné Tambour. Des membres de l'association du Festival Transversal participent. Et ce sont vraiment les étudiantes et étudiants de cinéma qui font des propositions de films. Ce sont ces étudiantes et étudiants-là qui présentent les films, et une des étudiantes du cours de Festival Transversal qui va venir également co-présenter le premier film, La Harpe de Birmanie, parce que c'est une étudiante qui est passionnée de cinéma japonais.
Et il va nous rester une petite minute pour parler des journées d'études qui auront lieu à l'Hôtel Pasteur à partir de jeudi, si je ne me trompe pas.
Je vais en parler très rapidement. Donc effectivement, ça commence jeudi 20 novembre, donc demain, jeudi et vendredi. Ça s'intitule Forêt et liminalité poétique et politique de la forêt dans la littérature et à l'écran. Et donc ce sont deux journées d'études qui rassemblent une quinzaine d'interventions sur la littérature, sur le cinéma, sur d'autres formes d'art, sur l'art dans l'espace public notamment. Et on s'interroge sur cet espace de la forêt comme zone frontière. On aura aussi des tables rondes, une performance de Juliette Thomas qui était venue dans J'irai cracher sur vos ondes, je crois, la semaine dernière. Et samedi, on termine samedi à l'Hôtel Pasteur avec plein de surprises.
Notamment
un grand festin, une tablée pour créer un réseau forêt et culture à Rennes avec celles et ceux qui voudraient venir à 18h à l'Hôtel Pasteur samedi, donc venez.
Les contraintes de temps obligent, on est passé vite, mais comme tu le disais, on a fait une émission diffusée le 3 novembre avec Juliette Thomas et Elsa Msalem, qui sont les deux artistes associés au festival cette année, et on a pu parler de ce qui nous réjouissait dans cette programmation de journée d'études. Donc n'hésitez pas à aller écouter le podcast sur le site de Radio Scilab pour en savoir un petit peu plus, ou lisez la programmation. Il y a un gros effort de rédaction qui est fait sur ce festival, donc allez voir ça. Et en attendant, on va écouter un petit texte de Silvina Ocampo, Élogie de la forêt abattue.
Elegía de la arboleda derivada. Un cyclone a destruido la arboleda.
Un cyclone a détruit la forêt.
En la fronda reluce la humareda de lágrimas, de lirios en las brumas, de hojas de otoño y nacaradas plumas.
Dans le feuillage reluit la fumée de larmes, de lys dans les brumes, de feuilles d'automne et plumes nacrées.
El oscuro laurel de la glorieta resplandece en la sombra, verde, quieta. Y el canto de las aves, rumoroso, penetra en el follaje fervoroso.
L'obscur laurier de la glorieta étincelle dans l'ombre verte, quiète. Et le chant murmurant des oiseaux pénètre dans le feuillage fervent.
Cruel firmamento, desagradecido porque no queda el árbol imprimido, muerto. En la infiel blandura del espacio donde quedan la estatua y el palacio.
Impitoyable firmament ingrat. Pourquoi l'arbre mort ne s'imprime-t-il pas sur l'infidèle souplesse de l'espace où s'imprime la statue et le palais?
Hermosa dicha, fuente
Divine
de los días.
Fontaine des jours.
Generosos veneros
de alegría.
Généreuse
source de bonheur.
Hirieron los euménidas el alma de esta arboleda que vivió en la calma.
Les euménides ont blessé l'âme de cette forêt qui vécut dans la sérénité.
En el sendero de oro entristecido, beso las altas ramas que han sufrido. Miro las aves en el barro muertas, las plumas rotas, las cabezas ciertas.
Au long du sentier d'or assombri, je baise les hautes branches meurtries. Je regarde dans la boue les oiseaux morts, les plumes brisées, les têtes rigides.
Sobre la húmeda tierra delictuosa, se enlazan las granadas y la rosa. Et tiembla l'agonía de las hojas.
Sur la terre humide délictueuse s'enlacent les grenades et la rose, et tremble l'agonie des feuilles. Dans les ultimes bois rouges de votre haute futaie, j'ai senti battre un cœur frémissant. Le même cœur fortuné qui levait dans les branches un feston ténébreux d'oiseaux, le maître de la nature et du rêve.
Sobre las últimas maderas rojas de vuestros altos troncos, yo he sentido latir un corazón estremecido, que elevaba en las ramas un festón tenebroso de pájaros, el dueño de la naturaleza, del sueño.
Vous venez d'écouter Élogie de la forêt abattue, vous vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes et vous êtes sur Radio Syllabe. Tout de suite, on écoute le texte coécrit et co-lu par Clara et Irène.
Est-ce que l'agonie peut vraiment laisser des traces ?
Quand la forêt s'effondre sous un dieu feu vorace.
Les cris se dissipent, avalés par le ciel, dans le brasier dense, rouge, presque irréel.
Quel degré de brûlure détruit l'existence ?
Quelle haine éteint nos voix ?
Quel brasier, quelle démence font de nous ce grand silence froid ?
Nul animal ne fuit.
Tout se fige, se tait.
Sous la morsure lente du brasier sacré, la vie se consume.
Flamme froide et fatale.
Pour renaître ensuite.
Plus farouche,
plus totale.
Arbre calciné comme prière silencieuse.
Terre noire mais fertile,
secrète,
précieuse.
Qui s'endort, boit, renaît
parfois cendre.
Pour apprendre aux vivants comment se réinventer,
se défendre. Demeure éclatée.
Paysage de charbon.
Relief d'un passé que dissout le tison.
L'enfer semble régner dans ces ruines fumantes,
mais c'est là que germent les graines résistantes. Et qui osera enfin demander
« Forêt, es-tu là ?
Forêt, pardonne-moi. »
L'esprit de la forêt ne s'est pas effacé.
Il attend,
invisible,
il veille, obstiné.
Car l'incendie détruit, mais aussi prépare, la renaissance lente du royaume phare.
Combustion,
brûlure,
atmosphère explosive,
et pourtant sous la cendre,
la vie reste vive. Prométhée murmure à l'humus incandescent.
Rien ne meurt vraiment, tout devient autrement.
Et aucun homme, génie soit-il,
ne pourra briser le cycle.
Sylvie génétique.
Personne ne rendra les flammes dociles quand la sécheresse devient endémique.
Alors je ne veux plus d'eau à mes pieds,
seulement
des cendres pour me laver de vos promesses.
Les méandres de l'humanité s'étendent autour de moi.
Les méandres de l'humanité s'étendent autour de moi.
Tous les péchés que j'ai subis et portés, qu'aucune
messe ne pardonnera.
Alors laissez-moi brûler.
Laissez-moi disparaître.
Que la flamme soit passage et non dernier chapitre.
Je redeviendrai plus forte.
Plus rude, plus
résistante. Plus fertile encore,
sauvage et bouillante.
Et même étouffée sous l'arrogance humaine.
Je reviendrai flamme.
Sans peur, sans chaîne. Car ce cycle ancien.
Destruction puis beauté.
Est le serment du feu.
Et celui de la forêt. Laissez-moi brûler.
Pour que les racines du monde
s'embrasent.
Et faire disparaître l'humanité.
Perdue dans sa folie tenace.
Que tout s'effondre.
Que tout soit consumé.
Des cimetières à la canopée.
Où pourrissent vos promesses floues.
Car l'enfer, c'est vous.
Merci beaucoup à toutes les deux pour ce texte, cette performance lue. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter quel a été le processus, le contexte qui a donné naissance à cette co-création ?
On a commencé ça pendant un exercice d'écriture dans le cadre du cours de Gaëlle. Donc on travaille sur le festival transversal, donc comment on peut s'impliquer dans le festival cette semaine. Et pendant cet exercice, j'ai repensé à un cours que j'ai eu en environnement pendant ma licence, dans lequel j'avais appris que le feu de forêt fait partie du cycle de la forêt et qu'il permet beaucoup de choses, mais que les humains perturbent ce cycle en voulant contrôler ces feux de forêt. Et ce qui fait qu'à force de les contrôler, ils prennent de plus en plus d'ampleur et ils deviennent incontrôlables. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui, notamment en lien aussi avec les grandes sécheresses. J'ai commencé par écrire « Laissez-moi brûler » et j'ai écrit plein de mots en lien avec ça. Et à la suite, Clara a repris tous ces mots et ces bouts de phrases pour créer un poème et j'ai ajouté ce que j'avais écrit, mes petites strophes en plus, et on a un peu coécrit comme ça.
Ouais. Irène, au départ, c'était pas prévu qu'on diffuse ce texte, et c'est quand Gaëlle nous a proposé la possibilité de passer du coup à la radio. Moi, j'ai été volontaire très vite pour essayer l'exercice, et Irène m'a suivie et m'a dit qu'elle avait un texte, et du coup, je me suis vite imprégnée de ce qu'elle avait écrit. Et en fait, c'était un thème que je connaissais pas forcément, surtout sur la question des feux de forêt et que ça fait partie du cycle. Et du coup, on s'est mutuellement inspiré. Ça a été assez rapide. On a eu 2 semaines quoi, à peu près pour écrire ça. Mais ça a été un exercice difficile, mais en même temps, super intéressant, autant l'une pour l'autre, de devoir travailler ensemble sur des manières qui sont différentes et sur un sujet aussi, aussi vaste que la forêt et que les feux de forêt. C'était aussi un peu c'est comme un sujet dont on parle, mais en même temps, on a essayé de faire d'une façon un peu plus poétique, si je peux me permettre. Et parce que ça nous a inspirés toutes les deux d'une certaine manière aussi, et parce qu'on avait un autre cours d'écriture via notre master, qui nous a aussi quelque part un peu motivés, parce qu'on a été mis en situation d'écriture en fait, très régulièrement depuis la rentrée, et moi ça m'a un peu motivée aussi ce truc-là.
Donc c'est un texte qui a beaucoup été pensé dans l'écrit, les mots, etc. Mais ouais. Là, vous vous retrouvez à travailler également la voix. Comment vous avez négocié cette partie-là de l'exercice?
On a fait ça que hier. Voilà, ça a été... on s'est entraîné que hier et là, tout à l'heure, à la BU, on essayait de chuchoter parce qu'on ne voulait pas déranger les autres. Et c'est vrai que c'est un exercice qu'on a du coup moins fait. Donc... Et puis à deux en plus. Et puis on a des timbres de voix différents, des façons de lire aussi différentes et des intonations. Donc... Mais ça s'est fait naturellement, c'est pas trop posé de questions pour le coup.
Moi j'ai fait beaucoup de théâtre, donc c'est vrai que j'ai l'habitude de séparer des bouts de texte et de savoir ce qui est intéressant de lire à deux ou en canon. Et du coup j'ai un peu séparé le texte comme ça en me disant « Ah bah cette phrase-là elle sonnerait bien si on la fait toutes les deux » ou « Celle-là en canon ». Et après j'ai proposé à Clara, elle m'a dit « Ok c'est bien, on a fait quelques modifications et puis c'était voilà. Bon
ouais. ». Et vous n'avez peut-être pas encore eu le temps soit fait de conscientiser les effets que ça a produit, mais moi, en vous écoutant, j'avais un peu l'impression de recevoir un texte un peu incantatoire. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, fait sens?
Oui, en fait, on s'est fait des réflexions quand on lisait. On a modifié, parce que des fois, on a l'impression d'effectivement réciter des incantations de sorcières. Et on se dit, c'est peut-être pas ça l'esprit ou l'envie, mais c'est vrai qu'en fait, à force de se le répéter... Ça peut, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé du tout à l'impact que ça pouvait, parce qu'on a fait lire le texte à des amis à nous, mais on ne l'a pas récité à haute voix devant personne. Du coup, c'est vrai que c'était un peu là la première fois. On s'est direct lancé dans l'exercice sans trop d'entraînement avant, mais je trouve que ce n'est pas plus mal.
Oui, ça laisse moins de place à l'appréhension.
Oui, c'est ça, et au doute, ouais, carrément.
Et est-ce que vous avez envie de continuer ce type de pratique-là? Est-ce qu'il y a une petite graine qui s'est plantée et qui est en train de germer là, pour l'appétence du micro ou l'appétence de la performance oratoire?
Oui, carrément. Dans notre master, on a eu pas mal l'occasion de faire travailler l'écriture et la performance. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu là, ça clôture aussi un peu tout ce qu'on a déjà vu depuis la rentrée et de fusionner un peu tout ça. Et c'est vrai que l'exercice du micro est sympa. Ça me donne envie de, pourquoi pas, retester et m'aventurer sur d'autres choses. Mais oui, carrément, c'est une porte ouverte.
Et toi, Irène?
Oui, on a plein de projets en cours. Le semestre se finit et du coup, on a un podcast à réaliser pour un autre cours. Donc ça donne envie de continuer cet exercice et après co-écrire à deux. C'est aussi hyper intéressant parce qu'on a deux manières d'écrire qui sont complètement différentes, deux méthodes différentes. Et du coup, ça apprend aussi beaucoup de choses sur nous-mêmes, la manière dont on écrit et aussi sur les autres. Donc oui, pourquoi pas refaire ça avec d'autres gens, à trois, à quatre.
Vous savez sûrement déjà, mais Juliette Thomas participe à la collective La Bouche, qui a une scène ouverte qui se tient au Grabuge dans les prochaines semaines. Le 9 décembre, précisément. Vous pouvez également vous rendre à la scène ouverte mensuelle qui se tient à Dibar, Spoken Lavar, qui est un autre espace à explorer. Et il y en a sûrement d'autres à Rennes, donc n'hésitez pas.
Trop bien.
On souhaite une belle exploration qui sera peut-être moins végétale, mais tout autant passionnante.
Mais pourquoi pas.
Et justement, vous mentionnez un podcast, on va en parler d'ici peu, mais avant, on va écouter une autre mise en son. Ce sont des extraits du livre Autopia de Camille Le Boulanger. Donc un petit peu de solarpunk pour découvrir des futurs désirables, peut-être.
Les bois étaient un mur vert, un vert d'une si infinie variété que je n'aurais pas eu le sentiment de voir plus de couleurs différentes en contemplant un arc-en-ciel qui partirait du sol et occuperait tout mon champ de vision. Une épaisse couverture d'herbes claires couvrait le sol, d'où partaient des buissons touffus dont l'extrémité haute se mélangeait au feuillage, si épais qu'il ne laissait passer que de fins traits lumineux qui dessinaient de petites taches dorées à nos pieds. Le barbu, cependant, ne me laissa pas le temps de la sidération. Il nous indiqua une grande cuve posée contre le mur de la maison, jusqu'à laquelle descendait une gouttière.
Remplissez les gourdes.
Je me penchai et ouvris le robinet. L'eau qui coula était claire et fraîche. Je compris que c'était la même eau de pluie avec laquelle nous nous étions lavés. Une fois les gourdes pleines, nous les attachâmes aux ceintures que le barbu venait de nous donner. La boucle n'était pas en fer ni en bois. Ulf jouait avec la sienne avec un air interrogateur. La réponse à sa question muette ne tarda pas.
« Bois de chevreuil, le plus solide. »
Je ne fus même pas surpris. J'observai Ulf. Alors que je le connaissais si bien et que je l'avais vu nu moins d'une demi-heure auparavant, j'avais du mal à le reconnaître dans cette nouvelle tenue. S'il y avait eu un miroir, nul doute que je me serais paru aussi étranger. Avec la doublure de fourrure du manteau, à coup sûr du cerf ou de la biche, avec les besaces et les outres de peau, nous ressemblions aux images d'êtres humains du paléolithique qui peuplaient certains livres de l'école à Pelagoya ou les manuels d'histoire de Grévy, ou du moins à l'idée que j'en avais gardée. Seules les chaussures, de facture plus moderne, nous en distinguaient. Je ne sais pas si les humains du paléolithique portaient des chaussures à lacets, même en cuir de chevreuil. « Et quand elle sera vide ?» demandai-je en serrant la lanière de la gourde. Cette fois-ci, le barbu dut considérer mon interrogation comme légitime.
« Il y a un ruisseau à 20 km vers le nord-est. Si vous le suivez, il vous amènera jusqu'à la Nevelle. Il ne vous restera qu'à la suivre, elle, et vous arriverez là où vous voulez. »
« Et où voulons-nous aller ? » fis-je en me tournant cette fois vers Ulf. Celui-ci, malgré la tenue bizarre, eut un sourire que je ne reconnus que trop et dit, avec un clin d'œil,
« C'est une surprise. »
Le barbu hocha la tête, l'air pensif, et nous souhaita à tous les deux un bon voyage. Puis il rentra dans la maison. Je ne l'ai jamais revu. Je n'ai jamais seulement su son nom. Comme toutes les choses qui ont trait à la zone rendue, il était un secret en lui-même. Le premier jour de notre voyage dans la zone rendue, nous n'échangeâmes presque aucune parole. La forêt en elle-même rendait tous les mots redondants. Ulf marchait quelques mètres devant moi et semblait toujours trouver un chemin entre les bosquets de houx et les branches tombantes des chênes. Il n'y avait pourtant aucun sentier tracé sur le sol. Sous nos pieds, des feuilles mortes et des branches craquaient, exhalaient leur odeur d'humus. En milieu d'après-midi, une légère averse se mit à tomber. Nous n'en reçûmes que quelques gouttes. La canopée, même dégarnie en automne, était trop épaisse, le maillage des branches trop serré pour laisser passer toute l'eau. L'humidité n'en augmenta pas moins et nous fûmes vite mouillés de la tête aux pieds. La laine collait à la peau et l'eau faisait ressortir l'odeur de mouton. C'est peut-être pour cette raison que nous ne vîmes aucun animal de toute la journée. Cela est le bruit que nous faisions en avançant. Naïvement, j'avais toujours cru qu'une telle forêt était silencieuse. Au contraire, au fur et à mesure que mon oreille s'y accoutumait, je me rendis compte qu'elle était pleine de sons. Les gouttes de pluie tintinabulaient de branche en branche jusqu'à tomber au sol. Le vent au-dessus des arbres faisait sentir sa présence par un bruissement discret mais constant. De loin en loin, une branche rompait et chutait avec un son mat sur le tapis de feuilles humides. Hors de mon champ de vision, toute la vie invisible de la forêt se faisait entendre. Des animaux poussaient des cris et grognements au loin, on nous contournait, leur présence seulement trahie par un souffle léger, un frottement entre les buissons, une brusque cavalcade de pattes ou de sabots. Quand la pluie cessa et qu'un soleil timide recommença de percer dans le sous-bois, des oiseaux se remirent à chanter. Plus nous nous enfoncions dans les bois, plus le sentiment que nous entrions dans un endroit où nous n'avions pas notre place se faisait fort. La forêt me semblait un organisme géant, dont le cœur battait au loin, quasi inaudible. Là-dedans, nous étions un corps étranger. Deux bactéries, deux virus vêtus d'atours empruntés, camouflés dans des peaux mortes pour ne pas infecter le bois, contaminer la forêt par notre présence. La ligne de chemin de fer était une longue aiguille plantée dans la zone. De là venait notre silence quasi total, nos pas lents et empreints de révérence. Toute la journée, je me sentis un peu ridicule. Quand une branche se brisait sur mon passage, j'étais tentée de lui présenter mes excuses. Après tout, qu'est-ce que je faisais là? Quelle était la raison de ma présence ici? Je l'ignorais, je suivais lui. Au milieu de la nuit, je fus réveillée par une lourde respiration de l'autre côté de la toile de tente, à quelques centimètres de mon visage. Je me figeai, cessant presque de respirer moi-même. Je sentis, autant que j'entendis le pas lourd faire le tour de la tente, fuir un long moment près de nous, pousser quelque chose ressemblant à un soupir avant de s'éloigner pesamment. Mon cœur battait si fort que j'étais convaincue que l'animal avait dû l'entendre. Cependant, je n'avais pas peur. L'image du cerf revint. Cette fois-ci, il était étendu, encore intact. Je pouvais sentir l'odeur de sa fourrure, celle de son haleine, de ses excréments. L'odeur lourde, prenante, presque goûteuse de la vie. Je m'endormis de nouveau. Nous nous éveillâmes au petit matin. Au cours de la nuit, nous nous étions serrés l'un contre l'autre. M'éveiller ainsi contre Ulf éveilla des souvenirs enfouis, des sensations oubliées de la toute petite enfance, durant laquelle nous avions sans aucun doute dormi l'un contre l'autre ainsi. Je constatais avec satisfaction que les provisions étaient intactes, toujours accrochées là où je les avais laissées. L'herbe autour de la tente était couchée en plusieurs endroits. Les traces multiples formaient une grossière spirale dont le campement était le centre. Nous avions donc été visités par plusieurs bêtes, et non seulement celles que j'avais entendues. Ulf observa la forme dessinée par l'herbe couchée en prenant un petit déjeuner de fruits séchés. Puis il fallut démonter la tente et refaire les paquetages avant de reprendre notre marche. Nous nous sommes enfoncés dans le buisson en visant à gauche du soleil levant. La forêt était aussi silencieuse qu'elle pouvait l'être. La rosée s'était ajoutée à la pluie pour rendre le sous-bois boueux et odorant. L'avancée fut difficile toute la matinée. Les buissons étaient noués les uns aux autres et les feuillages tombaient jusqu'à notre taille. Les branches basses et les ronces s'accrochaient à nos vêtements, griffaient nos bras et nos visages. Exténués, nous finîmes par nous arrêter quelques minutes sur un tronc à terre, sans tenir compte de la fourmilière qui s'y était installée et dont les habitantes ne tardèrent pas à nous grimper dessus. C'est comme si la forêt voulait nous empêcher d'avancer, ai-je commenté. Ulf a secoué la tête. La forêt ne veut rien du tout. Elle est là, c'est tout. Ça ne sert à rien de prêter des intentions à des choses qui n'en ont pas, il faut faire avec.
De Autopia, un livre de Camille Le Boulanger édité aux éditions Argile. Donc c'est une création plus que locale. Vous écoutez J'ai craché sur vos ondes sur Radio Syllab et on va tout de suite passer la parole à Lina qui avait une carte blanche à nous partager.
Bonjour à tous. Alors du coup, moi je vais faire une petite carte blanche. On m'a laissé l'opportunité de présenter des œuvres que j'aimais particulièrement et qui sont en rapport avec le thème du festival qui, je le rappelle, est forêt. Et comme le cinéma, c'est une passion, j'ai décidé de vous parler un peu de la forêt au cinéma. Donc en fait, la forêt, c'est un lieu qui est profondément ambivalent. En journée, elle peut être magnifique, majestueuse en automne, bucolique en été. On peut penser au pique-nique entre amis, les rayons du soleil entre les feuilles. Mais en fait, dès que la nuit tombe, tout change. Quand le noir s'installe, la forêt, ça devient un espace de peur. Chaque craquement nous glace le sang, chaque bruit devient suspect. Et on pense qu'à une seule chose, c'est fuir et rentrer chez soi. Et donc ça, le cinéma, en fait, il l'a bien compris. Je pense que l'un de mes premiers souvenirs de film se passant dans la forêt, c'est Mille et une pattes de John Lasseter et Andrew Stanton. D'ailleurs, beaucoup de films pour enfants se déroulent dans la forêt. On y retrouve une dualité entre la magie et la peur. Dans les Disney, chez Miyazaki, la forêt, elle est tour à tour bienveillante et mystérieuse. Mais c'est aussi un décor de prédilection pour le cinéma d'horreur. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le fameux projet Blair Witch d'Eduardo Sanchez et Daniel Myrick. Ce film à caméra embarquée qui a traumatisé, je pense, toute une génération. Et il nous a fait réfléchir à une question essentielle. Est-ce vraiment une bonne idée d'aller se balader en forêt la nuit avec ses potes? Spoiler, non. Je l'ai fait récemment pour le podcast dont on parlera plus tard. Et je confirme, ça fait bien flipper. Surtout quand tes potes s'amusent à te faire peur dans ton dos et qu'il fait nuit noire. La forêt, c'est aussi un lieu de mystère, un espace où on peut se cacher, se perdre ou se retrouver. Quand on parle de films en forêt, beaucoup pensent tout de suite à Into the Wild de Sean Penn. La forêt comme refuge, mais d'un autre côté qui peut te tuer également. Et d'un autre côté, on a Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, dans lequel la forêt, ça devient un outil de guerre, une jungle suffocante. Et encore une fois, on a cette idée d'ambivalence. C'est un lieu à la fois de refuge et qui est hyper menaçant, qui peut voire même te tuer. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est la forêt imaginaire au cinéma. Celle où vivent des créatures étranges, fascinantes et parfois effrayantes. Celle qui nous emmène ailleurs. Et dans cette catégorie, il y avait un film qui m'avait marqué, qui s'appelle Le Labyrinthe de Pan, de Guillermo del Toro. Alors, si vous ne connaissez pas Le Labyrinthe de Pan, c'est un film qui est sorti en 2006, qui se déroule en Espagne juste après la guerre civile. Et déjà, ce cadre historique, il est hyper important parce que la forêt dans ce film, ce n'est pas seulement un décor de conte, c'est aussi un espace de survie, de résistance ou de fuite. Le film, il nous raconte l'histoire d'Ophélia, une petite fille qui arrive avec sa mère enceinte dans un vieux moulin au milieu de la forêt. Son beau-père, c'est le capitaine Vidal, un officier franquiste d'une cruauté qui à en faire peur. Et dès le départ, on sent ce contraste entre le monde réel, dur, militaire, plein de sang et d'obéissance, et le monde imaginaire dans lequel Ophélia s'évade. Donc ici, ça va être la forêt. Et la forêt, c'est le passage entre ces deux mondes. C'est là qu'elle découvre un vieux labyrinthe de pierre habité par un faune qui est une créature mi-homme, mi-bouc, qui lui révèle qu'elle serait la réincarnation d'une princesse d'un royaume souterrain. Donc pour prouver son identité, Ophélia elle doit accomplir 3 épreuves et évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Ce que j'adore dans ce film, c'est la manière dont Del Toro mélange la réalité historique et le fantastique sans jamais vraiment nous dire où commence l'un et où finit l'autre. La forêt, c'est le lieu de tous les passages. Elle cache les résistants antifranquistes, elle habite des créatures surnaturelles, elle devient un refuge pour l'imaginaire d'une enfant qui tente de survivre à la violence du monde des adultes. De plus, visuellement, c'est vraiment un film magnifique. La photographie, elle est incroyable. Il y a des teintes verdâtres, brunes ou presque dorées qui donnent à la forêt une texture vivante, presque organique. On a parfois l'impression qu'elle respire et qu'elle observe les personnages. Et puis, les créatures du film, que ce soit le faune ou le monstre pâle avec les yeux dans les mains, je pense qu'on a tous l'image de cette créature, sont à la fois magnifiques et terrifiantes, un peu comme la forêt elle-même. On a cette idée aussi très forte que la forêt, c'est une porte vers la résistance. Les résistants, ils s'y cachent, ils s'y organisent, tandis que Vidal, lui, il la traverse comme un envahisseur. Donc on a ce contraste entre ceux qui respectent la nature et s'y fondent et ceux qui veulent uniquement la dominer. Le labyrinthe de Pan, il parle également beaucoup de l'enfance et de la désobéissance, car Ophélia, elle va refuser l'autorité de son beau-père, tout comme la forêt, en fait, refuse de se soumettre à l'autorité militaire. Elle suit son propre instinct, même si ça l'amène vers quelque chose de tragique. La forêt du film, elle agit donc comme un miroir. Elle reflète les peurs, les désirs et les croyances des personnages. Del Toro, ici, il traite le fantastique non pas comme une fuite, mais comme une façon de rendre le réel supportable, ce qui rend le film très très beau. Personnellement, j'avais pas vu ce film depuis 8 ou 9 ans, parce qu'il m'avait vraiment marqué. Mais je suis ravie, de l'avoir revu pour cette carte blanche. J'ai redécouvert la forêt qui sert de lieu d'initiation en étant dangereuse, mais tout en étant le seul endroit pour Ophélia d'être celle qu'elle veut être, faire ses propres choix et même affronter la mort. Ce film ne parle pas seulement d'une forêt magique, mais de la puissance imaginaire face à la barbarie du monde. Donc en conclusion de cette petite chronique et cette carte blanche, je pense que la forêt au cinéma, c'est un sujet immense et passionnant. C'est un espace qu'on explore depuis l'enfance et souvent sans s'en rendre compte en fait à travers les Disney ou les Miyazaki pour ceux qui ont grandi avec. Mais les films qui la mettent en scène, ils façonnent peu à peu notre vision de la forêt, celle du conte, celle de l'horreur, celle de la rêverie ou du danger. Et peut-être que c'est justement ça en fait la magie de la forêt, c'est qu'elle change de visage selon la lumière qu'on y met.
Merci beaucoup Lina, pour cette carte blanche. C'est vrai que moi, j'avais fait l'exercice de demander à une vingtaine de personnes autour de moi quelles étaient les forêts qui les avaient marquées. Et c'était beaucoup les éléments que tu cites sur les aspects que peut prendre la forêt qui sont revenus. Je n'ai pas eu le labyrinthe de Pan, mais j'ai eu le Seigneur des Anneaux. J'imagine que c'est un peu similaire. Mais on ne va pas pouvoir épiloguer beaucoup plus que ça sur ta chronique qui se suffit à elle-même par ailleurs. Parlons donc du murmure sous l'écorce ou des murmures sous l'écorce.
Alors, donc, moi, ma participation en tant qu'étudiante dans le cours du Festival des Transversales, c'est avec d'autres étudiantes, donc Thaïs n'est plus étudiante, Ethel et Nolwenn, et deux anciennes étudiantes, Thaïs et Philippine. On monte un podcast donc, qui sera bientôt disponible sur les plateformes d'écoute, il me semble, et il s'appelle Murmure sous l'écorce, donc murmure au pluriel. Avec les filles, on est allé en forêt parce qu'on voulait vraiment capter l'ambiance du lieu. Alors on a fait des prises de son très proches de l'environnement. On s'est retrouvés à gratter l'écorce des arbres, froisser des feuilles mortes, tenter de capturer le bruit des oiseaux qui passent ou du vent entre les branches. Et puis on a aussi enregistré des petites interviews avec des personnes qu'on a croisées sur notre chemin. Donc il y a des couples qui allaient à la chasse aux champignons, des enfants. On a croisé toute une ribambelle d'enfants qui étaient d'accord pour qu'on les interviewe. Donc c'est un moment assez spécial. Et notre idée de départ, c'était de créer une histoire auditive à partir de tout ça, avec des passages de lecture empruntés à différents romans. Mais surtout, on voulait parler de, encore une fois, l'ambivalence de la forêt et le mélange de la fascination et de l'inquiétude qu'elle provoque. Donc on a fait des prises de son de jour quand la forêt, elle était encore lumineuse, accueillante et pleine de vie. Et puis on est resté jusqu'à la tombée de la nuit pour capter les sons du crépuscule et observer comment ce lieu si apaisant devient soudain un peu plus inquiétant. Et quand on ne voit pas ce qui nous entoure, en fait, on s'est rendu compte que la forêt changeait de visage et on ne se sentait plus du tout à l'aise. Enfin bref, c'était toute une aventure qu'on a ensuite mise en histoire et on espère vraiment que ça plaira à celles et ceux qui viendront l'écouter. Car notre projet, il sera diffusé à l'Hôtel Pasteur le samedi 22 novembre. Donc n'hésitez pas si ça vous tente de venir écouter notre travail. L'entrée, elle est gratuite. Et en plus du podcast, il y aura plein de petits ateliers, une expo photo dont Gaëlle, je crois, a parlé pendant la présentation du festival.
Et un peu au niveau du format, on est sur quoi comme durée? Ça s'écoute en un seul bloc ou c'est plusieurs séquences qui s'enchaînent?
Alors ça va être une boucle, donc là pour l'instant le montage on a réduit, on était à 18 minutes 23, on est passé à 14 minutes 50, donc on a fait une grosse réduction. Mais non franchement c'est une boucle en fait parce que c'est comme une histoire, ça va être quelqu'un qui se balade en forêt. Et comme si d'un coup, il chopait des petites interviews par-ci, par-là, et qui narrait par les passages de romans. Par exemple, moi, je lis Peter Pan. C'est juste avant que les enfants entrent en scène, entre guillemets, pour nous raconter ce qu'ils pensent de la forêt, nous dire des petits mots qui leur font penser à cet environnement.
Et pour réaliser un petit peu le travail qui est derrière, ce temps de conception, de cueillette sonore, puis ensuite de cueillette littéraire, l'enregistrement, le montage, tout ça, vous êtes sur quoi comme durée de travail pour le moment?
Alors pour l'enregistrement, on a mis un week-end parce que il pleuvait le jour où on devait enregistrer, donc on a pris 2 jours pour aller en forêt, pour le faire à 2 moments différents. On a fait un jour où on est allé que le soir et un jour où on a passé une après-midi là-bas. Et au niveau du montage, alors c'est moi qui le fais, donc je peux dire à peu près combien de temps je mets. Franchement, j'y suis depuis mardi de la semaine dernière. Parce qu'en fait, le temps de faire le dérushage, en fait, de tout réécouter, parce que là, c'est pas visuel, on peut pas se baser sur quelque chose de visuel du tout, faut vraiment tout écouter, c'est un peu long. Et du coup, le temps d'envoyer les premières versions, de se mettre d'accord sur ce qui va, ce qui va pas, ça fait oui une petite semaine que je suis dessus. Donc normalement, là, il est fini, je croise les doigts, parce que je sais que Gaëlle a hâte de l'écouter. Du coup, franchement, là, on est, je pense, à 1,5 semaine de travail en tout.
Et vous avez enregistré les textes littéraires sur le même week-end, hein ?
On a tout enregistré chacune de notre côté, ça. Et du coup, les filles me les ont envoyés par mail. Et après, moi, j'ai fait mon travail de montage. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment, on est sur des petits 30 secondes de lecture en fonction de ce qu'il y avait. Il y a des extraits de romans, il y a des poèmes, et on a essayé de faire différentes personnes qui lisaient, comme ça c'était plus naturel aussi.
Et pour avoir une grande diversité vocale.
Ouais, c'est ça.
Comment dire ? Qu'est-ce que toi ça t'a apporté hein, de mener ce projet-là ?
Alors moi ça m'a appris la patience, parce que franchement en fait enregistrer en forêt, je l'avais jamais fait. et parce que j'ai déjà fait des tournages ou du montage, mais pas comme ça. Et du coup, là, j'ai complètement réappris grâce à un ami, notamment, comment me servir d'Audacity, parce que je ne savais pas du tout faire ça. Donc, la patience de réapprendre ces choses-là et de me pencher sur un nouveau type de travail, parce que je ne connaissais pas du tout juste le montage audio. Et ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et pourquoi pas le refaire? Mais franchement, je pense que je vais faire quand même une petite pause de ça.
Histoire de se reposer après ce travail.
C'est ça, parce que c'est quand même du taf, quoi.
Et tu disais que c'était la première fois que tu avais fait quelque chose comme ça, au sens où c'est pas toi qui es seule maîtresse de ce qui est produit et capturé. Tu dois dépendre des éléments extérieurs, que ce soit les promeneurs et promeneuses que vous avez rencontrés.
C'est ça. Ouais. Parce que, en fait, bah, si on croisait personne, on avait une petite partie du podcast qui tombait à l'eau. Et on nous aurait entendu que nous, et c'est pas ce qu'on voulait. En fait, on voulait vraiment essayer de rencontrer tout type de personnes pour avoir leurs avis sur la forêt, sur ce qu'ils en pensaient de cet environnement. Mais après, ouais, non, nous, on a eu de la chance, très honnêtement, parce qu'on y allait un dimanche après-midi en se disant on allait croiser personne, mais franchement, ça allait. Et sinon, au niveau du travail, ouais, c'était la première fois vraiment que je montais du son. Et du coup, je suis contente de l'avoir fait. Pourquoi pas le refaire, mais ouais, laisser une pause.
Mais ce que je voulais te demander, c'est justement, au-delà du travail sonore, est-ce que ce travail avec des partenaires impromptus, hein, c'est quelque chose qui t'a intéressé dans ta pratique artistique?
C'est vrai que je connaissais personne dans le groupe, du coup. Et franchement, j'ai adoré. Les filles, elles sont super cool. Tout le monde, on est une bonne équipe. On a direct fait un groupe WhatsApp. La semaine après avoir eu l'idée de participer au podcast, on a eu une réunion directement. Donc on a assez vite, en vrai, trouvé ce qu'on allait faire, quelle trame on avait. En fait, le plus dur dans un travail de groupe, c'est juste de caler des dates pour se voir quand tout le monde est disponible.
Le nerf de la guerre.
Voilà, c'est ça. Du coup, ça a été ça le plus compliqué. Mais sinon, non, franchement, moi, j'ai adoré ça. Et heureusement aussi, parce que faire ça toute seule, j'aurais pas assumé du tout. Franchement, c'est heureusement qu'elles étaient là.
Eh bien, venez à Stylab si vous voulez monter d'autres projets collaboratifs et collectifs autour du travail sonore. On va d'ailleurs écouter une autre petite mise en son, peut-être une référence que vous aviez également, puisqu'on va écouter « Mes forêts » d'Hélène Dorion.
Mes forêts sont le bois usé d'une histoire qui raconte des lunes tenues à bout de bras quand s'approche la nuit et le hurlement de nos peurs. Mes forêts sont la mise en terre de vagues immenses et de mots que je ne reconnais pas. Elles sont un horizon de corps nus sur le plateau des heures qui bascule soudain. La danse très lente des ombres vient hanter la machine de nos pas. Et quand les brumes s'apaisent, mes forêts sont une poignée de rayons plantés dans le sol durci. Avec le réveil d'un temps, elles sont les paupières tremblantes d'un espoir qui parle une langue d'écorce et de souffle. Langue de tous les jours. Humiliée, résistante, conquise, invaincue, qui trouble et promet avec des mots de travers, mots de trop, de peut-être, où les temps se confondent. Mes forêts parlent la langue du fleuve, celle d'algues et de limons, de rivières qui débordent, corps fous de joie ou emportés dans les remous de leur vie. Elles disent nos mains d'obscurité, de frêle beauté. Mes forêts racontent une histoire qui sauve et détruit. Alors nous rêvons comme la sève qui sera, comme le sang de ce qui n'est plus. Nous sommes auteurs de montagnes parmi les brumes affolées. Rien ne nous appartient. Nous dénouons, nous réparons ce que nous pouvons.
Mes forêts d'Hélène Dorion, vous êtes sur Radio Syllabe et vous écoutez J'irai cracher sur vos ongles. On est en direct depuis la BU et donc on te retrouve, Gaëlle. Tu avais envie de nous partager une chronique sur un ouvrage qui sera mis à l'honneur de la programmation du festival, puisqu'il s'agit de Border la bête de l'une vie humain. Je te laisse la parole.
Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Alors, je voulais en parler effectivement parce que on reçoit l'une vie humain dans le cadre des deux journées d'études qu'on a à l'hôtel Pasteur qui commence donc demain, jeudi 20 et vendredi 21. Donc, on la reçoit vendredi 21 à 16h. Et en fait, c'est une rencontre qui a lieu en collaboration avec un festival que les auditeurs, auditrices connaissent peut-être, qui est le Festival Étonnant Voyageur. Voilà, et donc j'ai travaillé en particulier avec Mona Journeau de ce festival-là. On s'est fait une petite sélection d'ouvrages avant l'été à lire pour savoir quel auteur ou quelle autrice on allait inviter. Et parmi donc ces 5 ouvrages sélectionnés, il y avait Border la bête, que j'avais vu passer, dont j'avais entendu parler à sa sortie il y a quelques temps déjà. Un roman qui est sorti en 2024, donc ça fait un peu plus d'un an, près de 2 ans en fait, parce qu'il est sorti en janvier 2024, mais que j'avais pas encore eu l'occasion de lire. Et donc j'ai été ravie de le découvrir à cette occasion, et Mona et moi on est tombés d'accord tout de suite sur le fait que c'était l'une humain qu'il fallait inviter, parce que Border la bête, c'est un roman qui se passe intégralement dans la forêt, dans une forêt d'Amérique du Nord, du Canada, qui est... disons que c'est un trait du roman qu'on retrouve dans un certain nombre de romans contemporains sur la forêt. Les auteurs, autrices, et surtout les autrices en fait canadiennes, nord-américaines, québécoises, publient beaucoup de romans sur la forêt. On pense à Gabrielle Filtoshiba par exemple pour son roman En cabanée que vous connaissez peut-être. Alors il se trouve que L'une vie mince, ce n'est pas une autrice québécoise, c'est une autrice française. Elle est née en 1994 et elle se décrit elle-même comme ça. Elle dit qu'elle a grandi au fond d'une forêt de l'Aude, en France donc, puis qu'elle a vécu en Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario. Donc en fait, les forêts et cet environnement-là des forêts dont elle parle, elle le connaît de première main, elle le connaît très bien, elle l'a expérimenté elle-même. Et puis elle dit que de retour en France, elle se met à écrire et qu'elle écrit à la recherche du vivant, aussi petit soit-il, en forêt, au bord de l'eau ou dans les herbes hautes. Et que donc elle est toujours en train de se promener dans la nature comme ça, avec un carnet à la main. Et c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans Border la bête. Donc Border la bête est paru, comme je le disais, en 2024. Et c'est un roman, donc je ne vais pas vous raconter l'histoire de ce roman, parce qu'en fait, il n'y a pas à proprement parler d'histoire, il y a une intrigue. Mais à mes yeux, ce n'est pas forcément ça le plus important de ce roman. On suit une narratrice qui est une jeune femme qui a environ la vingtaine et qui, suite à des accidents de la vie, on va dire, décide de quitter un peu la société, la ville, la société urbaine telle qu'on la connaît, et d'aller... chercher un autre sens à son existence dans la forêt, et notamment auprès de personnes qui habitent la forêt et qui travaillent avec la forêt, notamment des gardes forestiers. Voilà. Et donc, en fait, elle se retrouve en forêt, elle rencontre différents personnages, un homme et une femme notamment, avec qui elle va nouer des liens et avec qui il va se passer des choses. Ça fait partie de l'intrigue, mais voilà, je vous en raconte pas plus. Et en fait, pour moi, ce qui est vraiment très intéressant dans ce roman, rapidement, c'est que c'est un roman qui nous permet une véritable immersion dans la forêt. Forêt qui n'est pas simplement un cadre, un paysage dans lequel évoluerait le personnage, mais vraiment tout un écosystème dont la narratrice fait partie. Et cette forêt, elle existe dans le roman, elle existe dans l'écriture, elle existe dans la fiction, elle intervient dans la trajectoire des personnages comme une sorte d'autre personnage, et c'est ce dont on voudrait parler, notamment avec L'une vue humaine, à savoir si c'est une volonté de sa part d'avoir fait... de la forêt, un personnage à ce point-là. La forêt, c'est un espace pour la narratrice qui lui permet de se retrouver, de renouer avec qui elle est, de se perdre peut-être aussi, mais c'est finalement en se perdant qu'on se retrouve le mieux. C'est un espace qui la confronte à sa propre intimité, à des choses de son existence auxquelles elle ne veut pas faire face et auxquelles elle est obligée de se confronter, parce que dans la forêt, elle expérimente aussi la solitude et les vertus de la solitude. Et puis, quelque chose qui nous intéresse beaucoup avec les étudiantes avec qui on a préparé la rencontre, c'est de comprendre comment cette expérience directe que L'une vie humaine a eue de la forêt vient nourrir son écriture. Et notamment parce que c'est une écriture de la forêt qui est une écriture très sensible, très expérientielle, qui vise à transmettre du savoir. On en a parlé tout à l'heure dans les échanges avec Anne-Rachel Hermeté autour de son ouvrage Éco-écrire. Là, pour le coup, on est vraiment dans un texte qui transmet des formes de savoir sur la forêt, mais en passant par l'expérience directe du lieu et pas de façon didactique en nous imposant des connaissances comme une page Wikipédia ou que sais-je. Et ça se joue beaucoup dans l'écriture et aussi par exemple dans le choix du vocabulaire. Voilà, ça vient travailler la langue. Et voilà, et peut-être pour terminer sur cette petite chronique, moi, ce qui retient mon attention et ce dont on voudrait parler avec l'autrice aussi, c'est une question qu'elle pose dans le roman et qui rejoint un peu aussi la question du regard animal, du point de vue animal. C'est comment est-ce qu'on fait exister la forêt quand elle n'est pas vue par le regard humain? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut raconter un espace s'il n'est pas habité par l'homme? Et dans ce roman, la forêt, c'est pas un lieu que l'homme ou la femme, l'humain, quoi, est là pour conquérir, habiter, exploiter. C'est un espace qui existe avec ou sans l'homme, et même parfois en éliminant l'homme. Et voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut imaginer dans la fiction un espace qui ne serait pas vu par l'homme? Voilà, donc ne manquez pas cette rencontre, elle a lieu à 16h le 21 novembre et elle est suivie d'un temps de dédicace avec la librairie La Rencontre.
Merci beaucoup pour ce partage, Gaëlle. Alors juste pour expliquer les regards effarés que tu as pu voir, on a l'ordinateur qui a décidé de nous dire ciao.
Oh mince.
Donc pour les gens qui sont en public, ça ne change rien.
Ouais.
Je rajouterai au montage pour nos auditeurs et auditrices, du coup, une mise en son justement des toutes premières pages de Bordel la Bête de Lune Villemin, qui justement met en exergue cette sensibilité.
Ouais.
Donc, si Emilie a l'occasion de lancer le son, elle pourra le faire. Mais déjà, merci pour ce partage.
Merci.
Et puis, en tout cas, on est toujours en ligne. Et c'est déjà pas mal.
Oui.
Et ben, on va pouvoir écouter cet extrait.
Ben, voilà.
C'est super.
Super.
Quand le vent reprend son souffle, l'air se fige au-dessus du lac Petit. La glace soliloque sous le ciel blanc. Parfois, elle grince des dents, se met à rire et sa mâchoire claque. Sa peau blanche gercée de bleu semble forte et prête à recevoir les baisers ardents du printemps. Il y a d'abord une expiration de brume sur les sapins baumiers, puis le froid bondit d'un bout à l'autre du lac à la manière des chevreuils en fuite. Le chant de la glace rencontre le rire de la citelle. Les trembles nus se tendent la main, si blanc et lourd d'une neige glacée. Dans la forêt, le pas silencieux des biches alertes, le ventre rond d'une mésange sur une branche tordue. Une petite martre bâille, dents minuscules et poils hérissés par une couverture de neige fondue tombée d'en haut. Le matin pointe le long de la rivière Babine. Elle revient du nord de la vallée et rejoint le lac Petit, séparé du lac Grand, par une forêt dense qui fait ricocher les bruissements d'elle, les fracas de la neige et les silences éphémères. Un corbeau, sur une souche blanche, le bec enneigé, espiègle, regarde un peu alentour, surveille le lac Petit. Il neige, doucement et silencieusement. Une neige fine et timide. Quelque chose grignote, ou des piotes, ça crépite comme un feu sec. Un groupe de trois mésanges sur une branche gigote. Elles font les yeux doux à l'air piquant du matin. L'une d'elles plonge, flocon tacheté de noir, et disparaît. Le corbeau sur sa souche avec sa moustache de poudreuse croise un coup, regarde par là, pense. Haute sur ses pattes, l'orignal avance doucement. Elle traverse le matin blanc, grandes oreilles vers le ciel, narines écartées. Douceur dans le regard. La solitaire a le ventre rond, le poil épais et brun, avec un cœur qui cogne en dessous. Peut-être même deux. Ses longs doigts agiles évitent les roches et les branches dissimulées par la neige. Des yeux sous les pattes, elle avance confiante vers le lac Petit. La neige s'arrête si l'on regarde bien. La troisième mésange se pose à nouveau sur la branche. Une chose indicible se déroule entre les trois petits oiseaux à tête noire. Sur la souche, en bas, au pied du sapin, le corbeau n'est plus là. Le lac chuchote sous la glace qui lui met la main sur la bouche. L'animal sur ses longues et fines jambes envisage la robe d'hiver de l'étendue d'eau qu'elle connaît bien. De l'autre côté, elle longera la rivière Babine, remontera un peu vers les tourbières qui regorgent de vie, croisera quelques loutres au regard fourbe et rejoindra une autre forêt calme où l'on ne chasse pas, y croquer les pousses de cèdres et de sapins.
le grand corbeau fend le ciel blanc, fait rebondir un champ de gorge entre les arbres. Derrière le lac, le long de la rivière aux rives recouvertes de névis, enflées comme des lèvres tuméfiées, les jeunes bouleaux ont la peau fragile. Les premières lignes de Bord de la Bête de Lune Villemain avec un petit fond musical du thème de Chaussette dans Danse avec les loups. C'est le loup en fait. Donc nous nous apprêtons à clôturer cette émission spéciale de J'irai cracher sur vos ongles en direct depuis la bibliothèque universitaire de Rennes 2 dans le cadre du festival Transversal. Je crois, Gaëlle, que tu avais un mot à ajouter sur une exposition photo.
Oui, merci beaucoup. Alors, j'ai parlé de la performance de Juliette Thomas demain, de la rencontre avec Lune Villemain vendredi. Mais à Pasteur, à partir de demain matin et jusqu'à samedi soir inclus, vous pouvez aussi visionner une exposition de photographies de l'artiste Anne-Sophie Soudoplatoff. Donc, il y a une dizaine de photographies. L'exposition s'appelle « Les heures silencieuses ». Elle a été préparée aussi par trois étudiantes de M1. Anne-Sophie Soudoplatoff sera avec nous samedi après-midi pour une petite visite commentée de son exposition à 15h30.
Merci pour ces précisions. Et vous, Clara, Irène, Lina, est-ce que vous aviez un mot à ajouter pour clôturer cette émission ? Un cri du cœur forestier à partager ou juste un « c'était bien ». Merci.
Moi, je voulais remercier Gaëlle pour cette expérience et merci aussi de nous avoir laissé l'opportunité de faire une carte blanche, enfin pour ma part. Et c'était un exercice auquel je me reprêterai très honnêtement. Donc merci beaucoup.
Oui, ça va être un peu la même chose, mais merci aussi de nous avoir proposé de participer à cet exercice, de passer à la radio, ce qui est trop trop chouette et ce que je conseille si les gens nous écoutent et un jour ont l'occasion, parce que c'est vraiment trop bien. Et merci à Irène d'avoir fait ça avec moi, parce que c'était trop bien, ça crée du lien et c'est trop chouette d'avoir partagé ça. Et nous, de toute façon, demain, on sera un peu active aussi au sein du festival avec Irène, parce qu'on va faire la préparation demain matin. Du coup, on va avoir une grosse matinée avec Gaëlle, etc. Mais ça va être trop chouette de voir un peu comment le festival prend forme à Hôtel Pasteur, qui est en plus un lieu trop chouette de base et qui est vraiment un peu sous tous les projecteurs en ce moment, avec plein d'événements et plein de festivals. Donc voilà, trop bien.
Oui. Non, c'était trop chouette. C'est vraiment une belle expérience et ça, en tant que nouvelle Rennaise, ça me permet aussi de découvrir des choses qui se passent à Rennes et d'y participer activement grâce à l'université. Donc et au sein de l'Hôtel Pasteur qui est partenaire de notre master. Donc il y a des liens partout dans ce master. On fait des choses très créatives et ça me plaît de changer de forme et de pas juste déposer des dossiers sur cursus. Voilà, c'est des nouvelles formes de travail que je découvre et ça me fait très plaisir d'avoir fait ça avec Clara et grâce à Gaëlle aussi.
Vraiment merci à vous trois d'avoir joué le jeu. Il faut savoir que Radio Syllabe, c'est pour campus et là pour laboratoire. Donc c'est tout à fait notre mission que de vous tendre le micro pour partager vos expérimentations et relayer vos événements sur les campus. Mais vous pouvez tout à fait devenir aussi acteur, actrice de cette radio. N'hésitez pas à la rejoindre, que ce soit pour tremper un orteil dedans ou faire le grand flow, le grand plongeon. Moi aussi, j'ai plein de remerciements à faire, mais peut-être Gaëlle, tu avais un petit mot à ajouter de ton côté.
Eh ben, peut-être remercier aussi les étudiantes pour leur implication, parce que moi toute seule je fais rien du tout et vraiment c'est toujours un plaisir renouvelé que de travailler. Et merci beaucoup à Syllab de nous avoir accueillis et d'avoir couvert le festival à ce point-là, c'est super.
C'est avec plaisir. Donc moi j'ai commencé par remercier les équipes de l'ABU pour leur accueil, Élise, Clarisse, Catherine, parce que initialement c'est elles qui sont venues à nous pour couvrir d'abord le Pur Café et ensuite on a pu échanger avec toi Gaëlle pour faire des émissions en rapport avec ce festival. Donc merci d'ailleurs à toute cette équipée, à vous quatre d'être venues et d'avoir participé. Également aux artistes associés qu'on avait reçus le 3 novembre dont j'avais craché sur vos ondes, donc Elsa Salem et Juliette Thomas, c'était un très beau moment. Et puis merci aux gens qui ont prêté leur voix pour les lectures. Donc merci Clara, Cèdre, Julie et Boja qui ont participé. Et un merci spécifique à Julie sans laquelle je n'aurais pas découvert Utopia, qui est vraiment une référence forestière que j'ai découvert grâce à elle en préparant ces émissions. Et je suis tombée dedans et c'est vraiment génial. Et puis on va terminer avec un grand merci pour Émilie sans laquelle nous ne serions pas audibles. Merci d'avoir fait la technique. Et puis merci également aux gens qui nous écoutent depuis leur poste radio. Très bonne fin de journée à vous tous et toutes. et restez sur Syllab, bien sûr.